Olivier Adam, bonjour.
Bonjour.
Ma première question, elle est très simple. Je voulais savoir quel est le point de départ de ce livre. Est-ce que c'est un thème que vous vouliez travailler ou est-ce que vous êtes parti d'une situation bien précise ?
D'abord, je dirais qu'il y a des livres qu'on choisit d'écrire parce qu'on veut se confronter à tel type d'écriture, tel lieu, telle esthétique, tel type d'objet littéraire. Et puis, il y a des livres qu'on choisit moins d'écrire, qui s'impose à vous, qui vous tombe dessus.
C'est le cas de celui-là ?
Oui, alors celui-là, je le range dans cette catégorie-là, avec Falaise, avec À l'abri de rien, avec Les Lisières. C'est des livres que j'ai écrits un peu contre mon gré, parce que je savais que ce qui me tombait dessus, ce qui est l'obsession qui me venait, et le livre que j'entrevoyais, et j'en entrevois pas tous les jours. Donc quand j'en entrevois un, en même temps, je regarde ça de vraiment près, aller me faire fouiller dans des zones pas forcément toujours agréables, où j'avais pas forcément envie de spécialement m'aventurer. Mais pour la première fois de ma vie, ce livre m'est tombé tout cuit, je dirais. C'est-à-dire que je l'ai eu quasiment tout d'un coup, d'un bloc, dans son thème, dans son déroulement, dans son écriture elle-même. Je voyais même l'objet qu'il pouvait constituer, enfin, un objet littéraire. Et je n'ai plus qu'à l'écrire d'une certaine manière.
Donc, expérience totalement inédite pour vous.
Oui. D'ailleurs, je me suis même interrogé. Je me suis dit, est-ce que je dois écrire un livre qui est déjà...
Je n'ai plus rien à faire.
Et finalement, d'ailleurs, c'était très jouissif comme écriture de suivre un livre qui vous attend. Après, alors, il y avait des choses qui précédaient
un peu... Quelle était cette obsession ? Vous avez parlé d'une obsession qui vous est tombée dessus.
Non, c'est l'histoire elle-même qui m'est venue. Alors, il y avait deux choses qui, comme toujours, il y a une période de jachère où des choses s'articulent comme ça. J'étais très obsédé par cette image des orphelins, des grands orphelins, des adolescents laissés à eux-mêmes par des parents trop occupés à leurs propres affaires. Je pensais beaucoup à Patrick Modiano, à ces chiens perdus sans collier. C'était quelque chose qui me hantait beaucoup, autour duquel j'avais envie de travailler. Et il y avait aussi ce livre, très beau livre de Richard Ford qui s'appelle « Le Canada », où un frère et une sœur découvrent que leurs parents, qui ont l'air tout à fait normaux, sont en fait des cambrioleurs et qui vont se retrouver en prison. Et du coup, ils sont expulsés de leur propre vie du jour au lendemain. Voilà. Et puis en fait, un jour... Je vous raconte vraiment comment c'est né. Hein.
Je vous le rappelle.
Oui, mais là, c'est vraiment la cuisine. Hein. J'étais avec Jalil Lespert, qui adaptait Les Vents Contraires au cinéma, et qui m'interrogeait sur l'envie que j'aurais de travailler avec lui sur un sujet particulier. Il avait très envie de travailler sur les affaires politiques, mais alors dans les hautes sphères. Je prends un exemple, disons, Cahuzac, Mediapart... les gens qui ont besoin d'être protégés, des choses, la haute finance, les banques suisses, tout ça. Et je lui ai commencé à lui expliquer que moi, je ne pourrais pas faire ça, que si je devais traiter une affaire politique, ce serait totalement latéral. D'abord, il faudrait que ça soit totalement à hauteur d'homme, qu'il s'agisse du maire de la ville où j'ai grandi, ou de la ville où chacun de nous a pu grandir.
Draveil, au hasard.
Qu'il aurait fallu que... et qu'encore, ce ne serait même pas vu à travers un homme politique même... de petite envergure comme ça, même à l'aune d'une petite ville, avec tout ce que ça a d'un peu chabrolien, hein, la petite bourgeoisie de banlieue ou de province, avec les secrets, les on-dit, les trucs un peu putrides qui se cachent derrière l'apparence de normalité et de bienséance, mais qu'il faudrait même que j'endosse le rôle de quelqu'un par qui je peux ressentir et comprendre ce qui se joue. Et donc j'ai commencé à lui dire, par exemple, voilà... je pourrais écrire un truc sur un type qui est accusé et puis en fait, s'il y a son adjointe, je partirais, moi, du point de vue des enfants. C'est-à-dire, de toute façon, c'est mon obsession, c'est faire parler ceux dont on ne parle jamais dans tous mes livres. Dans une affaire comme ça, où un homme politique et son adjointe sont accusés de viol et d'agression sexuelle sur deux employés, ceux dont on ne parle pas ou mal, ce sont souvent les victimes elles-mêmes. Et puis, il y a des victimes collatérales qui sont les proches, la famille, qui sont victimes évidemment de la rumeur, de la honte de voir leur famille accusée aux yeux de la France entière d'une telle ignominie. Mais... qui peuvent aussi être confrontés au fait que leurs parents sont peut-être des ordures aussi, et vivre avec ça.
On va y revenir. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que bon, vos romans sont fondamentalement politiques, j'allais dire, dans la mesure où ils sont le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Mais je crois que c'est la première fois que vous vous emparez de la politique, dans le sens de la vie politique, avec des acteurs de la vie politique, que vous vous emparez de cela dans, dans un de vos romans.
C'est vrai que la dimension politique de mon travail est toujours liées aux questions sociales et qui impliquent nécessairement une vision politique des choses, ou elles sont portées par une vision politique. Mais c'est la première fois que je regarde les acteurs, politique. Le personnel politique, ouais. Mais là encore, je voulais le regarder non pas de haut ou dans les sphères qui sont pour moi inaccessibles et que je ne peux même pas me représenter. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans la tête de Strauss-Kahn ou Cahuzac, etc. Donc je voulais le traiter à hauteur de ce que chacun de nous peut connaître. Le maire de la ville qui est sur le marché, qui serre les mains, quoi. Voilà. Et l'adjointe aux affaires scolaires, qu'on connaît vaguement parce qu'on a nos enfants à l'école et qu'on sait bien qu'il y a quelqu'un à la mairie qui s'occupe. Voilà. Alors la particularité dans le livre-là, c'est que, pour que c'est quand même une dimension dramatique forte, c'est que le maire en question, il est aussi ministre délégué. C'est aussi une personnalité, malgré tout, nationale, qui fait que quand il est pris la main dans le sac, si on peut dire, quand ses turpitudes sont révélées, ou en tout cas quand il est accusé de quelque chose, c'est porté à la connaissance de la France entière, de la ville elle-même, à travers RTL, Le Monde ou Le Parisien.
Alors là, on va évacuer cette question. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'affaire Georges Tron, et pour de multiples raisons, parce que les faits en sont très proches, et aussi parce qu'il était maire de Draveil, qui est votre ville, la ville de vos origines, de votre enfance. Donc vous n'êtes pas allé chercher au hasard ce scénario-là, en tout cas.
Le mécanisme, peut-être. C'est-à-dire que, bon, d'abord, Georges Tron, c'est surtout une histoire de pied, si je me souviens bien. Après, l'atmosphère d'impunité qui règne actuellement dans le monde politique, la manière dont des hommes politiques pris la main dans le sac, qui ont des casseroles multiples, sont réélus dans des villes sur lesquelles elles règnent assez étrangement, avec 60% des voix au premier tour, mais qu'on pense à Balkany ou à d'autres. C'est quelque chose qui gangrène la démocratie et qui nourrit d'ailleurs l'abstention, le vote extrême et le dégoût que les gens ont de la politique, et en même temps les gens s'y soumettent parce que quand c'est à votre porte, quand c'est chez vous, le fait que ces gens-là passent à la télévision, sont connus, font qu'on leur renouvelle une confiance qu'ils ne méritent pas. Alors ça m'intéressait, mais ça m'intéressait à l'aune de tout ce qu'on peut lire dans les journaux, dans la politique actuelle et dans l'actualité. Alors évidemment, j'ai grandi dans cette ville. Bon, c'est comme toujours, quand il se passe quelque chose à Saint-Malo, où j'ai longtemps habité, où je garde beaucoup d'attaches, je regarde tout de suite, ça m'intéresse plus. Et dans la ville où j'ai grandi, nécessairement, ça a pu influencer. Mais ce qui m'intéressait, c'était le mécanisme, c'est-à-dire l'accusation, les mécanismes, tout de suite, ce qu'il y a toujours, c'est-à-dire on crie au complot, on prouve que c'est un complot, on met en cause les plaignantes, surtout, alors toujours quand il s'agit de femmes, quand il s'agit d'agressions sexuelles, on explique qu'elles sont d'abord non fiables, qu'elles sont malades, qu'elles sont hystériques, qu'elles sont manipulées. Et là encore, ce qui m'intéressait, c'était à la fois de décrire ça, mais aussi qu'est-ce que c'est que de voir ses propres parents usés de tous ces moyens-là, traîner dans la boue des gens pour s'en sortir et garder leur réputation.
Et avec le désarroi dans lequel ça plonge ses enfants, vous parliez d'orphelins tout à l'heure, donc Antoine, ici le personnage principal, tout d'abord, il est soumis, parce qu'évidemment, je vous cite, l'innocence d'une mère est inquestionnable, donc dans un premier temps, il ne veut pas y croire.
D'autant que cette mère a tous les atours de la banalité la plus totale, c'est la mère de famille au foyer, enfin, dans un premier temps, absolument modèle, qui prépare, qui va aux associations de parents d'élèves, qui est à la paroisse, qui emmène ses enfants au goûter, au conservatoire, ceci, cela. Mais qui, à un moment donné, se fait quand même suffisamment remarquer par le maire pour en devenir la maîtresse, puis par ce truchement, l'adjointe. L'adjointe, l'adjointe. Déjà gagné une forme de pouvoir dans la ville. Bon, ça encore, déjà, Antoine regarde ça, il sait bien qu'il y a des rumeurs là-dessus. Mais ensuite, elle devient, là, accusée de choses inimaginables. Alors, Il y a ces deux temps. Il y a le temps de la honte, de la rumeur, de l'humiliation.
Humilié,
il y a le temps des non-dits, le temps de l'incompréhension. C'est toutes ces choses qu'on entend qu'à travers les portes closes, d'un étage à l'autre, des conversations téléphoniques dont on ne perçoit que des bribes. Et tout ça dans une chape de plomb de silence, parce que dans cette famille soi-disant normale, c'est une famille où on ne se parle pas. Et on ne se parle pas, et comme dans toutes les familles, on ne parle surtout pas de ça. C'est-à-dire que ce qui ajoute au silence et à l'impossibilité de communiquer sur cette question-là, c'est le caractère proprement scandaleux et sexuel de la chose. On ne peut pas parler de choses pareilles avec ses propres parents.
Alors à un moment donné, l'évidence est là. Antoine est aidé dans son cheminement par Laetitia, la fille du maire, de l'homme politique. Et malgré tout, face à cette évidence, la culpabilité continue de le ronger avec toutes ces questions. Là aussi, je vous cite, « Avions-nous trahi? Étions-nous des monstres? Quel enfant étais-je? Quel fils étais-je pour haïr ainsi mes parents, les déclarer coupables, les condamner et les fuir ?»
C'est-à-dire qu'on est 10 ans après, hein, la narration se passe 10 ans après, et donc tout passe au filtre d'abord de la non-fiabilité de la mémoire, qui est un thème chez moi constant, parce que j'ai une mémoire très peu fiable, donc ça me concerne beaucoup. Du doute, de la remise en question, de la manière dont certains faits mineurs prennent des proportions extravagantes, dont des années entières ou des mois entiers sont réduits à une vague impression. Et puis aussi, il y a ce doute qui est instillé par le fait que cette Laetitia, la fille de Laborde, le maire, elle est magnétique, quoi. Elle est magnétique et c'est un ado, quoi. Il y a aussi cette question de l'adolescence. D'abord, l'adolescence, c'est un âge où on a très vite fait déboulonner ses parents, les adultes, d'être dégoûté face aux compromissions, aux turpitudes des adultes. Et puis, il y a un âge où on s'identifie, où on peut se faire happer totalement par quelqu'un. Et là, cette Laetitia, il la suivrait au bout du monde. Il serait l'ombre de son ombre, comme disait Brel. Et il est prêt à tout croire juste pour garder auprès d'elle la place qu'elle voudra bien lui accorder.
Antoine, bon, du coup, a choisi la fuite. Il est devenu, jusqu'à la mort, l'annonce de la mort de Laborde, qui va donc le ramener vers ce passé, le faire revenir dans cette ville. Mais il a, pendant toutes ces années-là, il est devenu absent à lui-même. C'était une telle souffrance pour lui que finalement, il s'est fui, lui d'abord, et il a fui sa vie, en quelque sorte. Ça, c'est un thème que vous creusez très bien.
Oui, il a opposé une sorte de mur opaque entre ce qui l'a fait fuir et la vie qu'il mène, une vie pas désagréable d'ailleurs, mais solitaire, retranchée, pas très accordée à son âge d'ailleurs. Il vit seul dans un petit hameau près de Saint-Malo, bon, c'est pas cité, mais enfin on le devine. Et puis il finit par rencontrer quelqu'un qui va lui tendre une main qui est nécessairement liée au livre. Parce qu'il n'y a que ça qui nous sauve.
Un
libraire qui a une petite librairie que j'ai imaginée à Roté-Neuf. Il n'y en a pas, mais enfin, je l'ai imaginé là-bas. Et dans cette abstraction aussi et ce silence des livres, il va se lever comme dans une maison protégée du bruit du monde, du bruit de sa propre mémoire. Jusqu'à ce que voilà, il entre dans un café juste pour prendre son petit sandwich du midi et hop, à la télévision sur BFM ou LCI ou je ne sais quoi, il voit apparaître le visage de Laborde dont on annonce la mort.
Je me disais même à un certain moment que c'est presque un mort-vivant, Antoine, à cette période-là, dans ces années-là,
oui,
d'une certaine manière.
La manière dont certaines blessures de l'adolescence ou de l'enfance nous sortir, nous extirper de nous-mêmes, nous sortir de notre propre trajectoire, m'intéresse beaucoup. Quoi. La manière dont on semble parfois subir sa propre vie et ne pas bien savoir à quel moment on en a pris les rênes ou non. Antoine, finalement, un jour, Laetitia l'a pris par la main, lui a dit « Nos parents sont des pourritures, il faut fuir. » Elle l'a emmené dans une maison en Bretagne, puis elle a disparu. Et il est resté là où elle l'a laissé, quoi.
Comme un coquillage selon le flux des marées.
Oui, d'ailleurs, le livre s'appelle La Renverse, parce que c'est ce moment...
Avec un double sens, donc.
Oui,
la renverse, ce qui peut nous renverser, basculer nos vies.
Et puis,
mais avec un autre sens voilà, que l'on connaît moins.
Qui est un terme, oui, de littoral, c'est l'étal, quoi. C'est-à-dire ce moment où il n'y a plus de courant
entre deux marées
et où tout s'arrête. Et où d'ailleurs, souvent, le vent... se suspend, le ciel s'ouvre ou se ferme, et
donc
il y a
Antoine
quelque chose.
S'est retiré.
Et pendant 10 ans, il est dans cette. C'est une renverse qui dure 10 ans, avant que la marée revienne.
Et là,
dans l'autre sens.
On va assister à sa marée haute, c'est-à-dire qu'il va revenir vers la vie, son destin,
et puis,
s'en emparer, en devenir le maître.
Briser en lui-même le déni, parce que c'est ça qui l'a opposé sur tout ça. Et enfin se confronter à ce qui l'empêche de vivre. Bon, voilà, c'est limite. Une sorte de psychanalyse sauvage de sa part.
Et puis avec ce thème, on l'a évoqué tout à l'heure, mais je voudrais qu'on y revienne, moi, que je trouve fascinant, et puis qui a une dimension universelle, même si nos parents n'ont pas été mêlés à des scandales politiques, où c'est que nos géniteurs, ces parents, finalement, restent pour leurs enfants, resteront toujours de grands inconnus.
Oui, et aussi que et vice versa d'ailleurs.
Oui, mais alors on parle souvent justement de l'inverse des enfants. Bon, voilà, ces exemples d'enfants parfaitement éduqués qui deviennent des délinquants, etc. Dont les parents pensent toujours que ce sont les meilleurs enfants du monde. Mmh. Et c'est vrai que dans le sens inverse, oui, c'est un thème qui est souvent
découvrir
moins
que ses parents sont des gens. Vivre avec le fait qu'on a été élevé par des parents qui étaient fondamentalement des gens, je vais employer un mot bizarre, mais mauvais, quoi. Enfin, prêts à tout, corrompus, c'est quelque chose qui a du mal à vous ancrer dans la vie et à vous stabiliser. L'idée de l'humiliation, de la domination, elle est politique, mais elle peut être aussi familiale. On est la proie de ses parents. Ils ont tout pouvoir sur nous.
Alors, je trouve qu'il y a un dispositif narratif qui est assez novateur ici, chez vous, dans votre livre, ne serait-ce que par ce contexte, ce personnel politique, ce scandale, enfin des choses que vous n'aviez jamais traitées, abordées. Et puis, en même temps, on est dans du pur Adam, c'est-à-dire qu'il y a à nouveau l'évocation de ces banlieues, de ces lisières, justement, de ces cités pavillonnaires, d'une certaine médiocrité, banalité, médiocrité du quotidien. Et puis, des paysages océaniques, les falaises, la mer est là, le ressac, et les vagues. Ça, vous ne pourrez jamais vous en passer.
Non, mais c'est vrai, mais c'est limite inconscient parce que là, les premiers retours de lecture que j'ai de lecteurs anonymes ou d'amis et tout ça, c'est quand même. Reviennent beaucoup là-dessus. Et quelqu'un me faisait remarquer que. Quoique j'ai eu l'impression, moi, d'aller sur des thèmes totalement nouveaux pour moi et de m'aventurer sur des terres très aventureuses.
C'est le cas aussi.
On me dit, le pavillon de banlieue, la Bretagne, le père dur, la mère borderline, l'amitié amoureuse entre le personnage principal et une Laetitia ou une Léa, selon les livres.
Les frères. Non, pas une gémellité,
Loin. Tous les invariants sont là. Voilà. Ouais. Mais ça ne m'a jamais vraiment inquiété parce que mon admiration va souvent à des écrivains qui où on retrouve aussi des invariants forts, qu'on pense à Patrick Mulano ou à Jean-Paul Dubois ou à Philippe Djian. Voilà.
Mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est ce qui fait un écrivain et c'est ce qui fait surtout une œuvre.
Je sais pas, enfin, j'ai pas l'impression de toute façon, j'écris ce que je peux, hein, j'en suis toujours là. J'ai fait du mieux que je peux, hein, mais ça me rattrape toujours. Avec aussi des questions sociales et politiques qui sont celles qui me traversent. J'écris de toute façon avec mes obsessions et le terreau qui m'a constitué.
Merci infiniment, Olivia.
Merci à vous.